Chapitre 25. À minuit seulement, afin qu'Odile ne pût le retrouver, Jean-Noël rentra chez lui. Une lettre était dans sa case. Il reconnut tout de suite la grande écriture de Madame Mourier. Ce n'était pas la première fois, depuis qu'il avait quitté la rue Laugier, qu'elle lui écrivait. Elle l'avait déjà fait à deux reprises pour lui montrer qu'elle restait toujours son amie. « J'ai à te parler, Jean-Noël. Veux-tu passer demain matin, avant 10 heures, chez moi ? Je t'attendrai. Il s'agit d'une chose très importante pour toi. » Ces quelques mots couvraient une page entière. Jean-Noël ne crut pas à cette chose importante. Néanmoins, il se rendit rue Laugier. « J'ai reçu hier, dit Laure avec fierté, la visite de ta belle-mère. » Jean-Noël pâlit. Annie était donc à Paris. Qu'est-ce qui l'avait attiré chez Madame Mourier ? On eût dit que, chargé de veiller sur sa belle-mère, il venait d'apprendre qu'elle avait de mauvaises fréquentations. « Elle est bien restée 1 heure ici. Nous avons même beaucoup parlé de toi. » continua Madame Mourier, qui avait la manie d'aimer à paraître l'intime des amis de ses interlocuteurs. « Que voulait-elle ? » demanda Jean-Noël avec un air indifférent. Quoique les deux femmes eussent pu se dire à son sujet, ne demeurait-il pas le beau-fils d'Annie ? Madame Mourier évita de répondre. Elle changea même de conversation, comme si la visite de Madame Ettlinger n'avait été qu'un prétexte imaginé par elle pour revoir Jean-Noël. Elle lui demanda ce qu'il faisait, s'il cherchait une nouvelle situation. Pendant qu'elle parlait, Jean-Noël, exaspéré d'être ainsi tenu en haleine, s'efforçait de garder son calme. Finalement, Madame Mourier lui donna la raison de la visite d'Annie. Avant de partir en voyage, elle voulait faire ses adieux à son beau-fils. Ne l'ayant pas trouvé rue Laugier, elle avait prié Madame Mourier de faire savoir au jeune homme que, jusqu'au 1er mai, il pourrait la rencontrer à l'hôtel Cambon, rue Cambon, de préférence le matin. Quand Jean-Noël revit Odile dans l'après-midi du même jour, la première chose qu'il fit fut de lui dire qu'il avait reçu une lettre, non pas de Madame Mourier, mais d'Annie, que celle-ci le priait d'aller le voir. Mademoiselle Burzel, qui, d'habitude, lorsqu'elle croyait avoir déplu à Jean-Noël, n'avait de cesse que le nuage ne se fût évanoui, accueillit pourtant très mal cette nouvelle. « Vous n'avez donc pas encore compris que votre belle-mère ne vous a fait que du mal ?» Jean-Noël ne répondit pas. « Vous n'irez pas » dit-elle impérativement. Le jeune homme répliqua cette fois que rien au monde ne l'en empêcherait. Odile perdit son sang-froid. « Vous choisirez entre elle et moi !» Cette mise en demeure laissa Jean-Noël complètement indifférent. « Vous ne savez pas discerner qui vous aime, de qui ne vous aime pas !» En disant ces mots, Odile quitta le salon de l'appartement de ses parents où avait lieu cette entrevue en claquant la porte. Cet accès de colère fut de courte durée. Le lendemain matin, Mademoiselle Wurzel se rendit, toute changée, à l'hôtel des grands hommes. Jean-Noël était déjà sorti. La veille, en rentrant chez lui, il avait eu le sentiment qu'il avait pris la défense de quelqu'un qui ne lui en aurait jamais la moindre reconnaissance. Son zèle lui avait semblé inutile. Au fond, Odile n'avait-elle pas raison ? Pourquoi Annie, puisqu'elle se souciait si peu de lui, le dérangeait-elle ? Il y avait 4 mois, elle avait disparu, sans même le prévenir, comme s'il était un étranger. Pourquoi chercher à le revoir ? Mais il n'avait pu résister à cet appel. Aussi, au moment où Odile le demandait au bureau de l'hôtel, traversait-il les Tuileries, dont les pelouses, par ce matin ensoleillé, étaient étincelantes de rosée. Un espoir était en lui. Peut-être Annie avait-elle quelque chose d'important à lui dire. Peut-être désirait-elle qu'il l'accompagnât dans un lointain voyage. Elle s'était aperçue que Charles Le Doiré n'avait pas pour elle un sentiment aussi sincère que celui de son beau-fils. L'idée lui était venue que celui-ci se réjouirait de partir avec elle. Elle se proposait de lui demander s'il était libre. Il imaginait déjà comment cela se passerait. Elle le ferait comme chaque fois qu'elle lui avait causé une joie immense, sans paraître comprendre qu'il pût s'en réjouir. Et il accepterait sans enthousiasme pour ne pas lui déplaire. Lorsqu'il fut introduit dans le petit salon contigu à la chambre d'Annie et qu'il se trouva au milieu de mâles, de robes, cependant que par les fenêtres il apercevait, à travers la brume du matin, non pas les toits d'un quartier populaire, mais les dômes, les terrasses du centre de Paris, il éprouva une telle sensation de bonheur qu'il demeura un instant suffoqué. Annie était près de lui, grandie et amincie par ses vêtements de deuil. « J'ai voulu te voir avant de partir, » dit-elle. « Pour où pars-tu ? » demanda Jean-Noël en s'étonnant qu'il pût poser une question aussi familière. « Je ne sais pas encore. En tout cas, nous passerons quelques mois à Florence. » Jean-Noël demeura silencieux. Annie n'avait pas changé. Elle était toujours aussi égoïste, égoïste au point de paraître ignorer que son existence était enviable. Il ne lui venait pas à l'esprit que, pendant qu'elle se préparait à partir pour une ville où, comme elle disait avec admiration, il y avait des Michel-Anges en plein air, dans les ruelles, son beau-fils, le fils de l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié, demeurait seul à Paris, livré à lui-même et sans affection. « Je suis contente que tu sois venue. Nous partons, monsieur le Doiré et moi, après-demain. » Lorsqu'elle avait présenté Jean-Noël à monsieur le Doiré, elle avait été certaine qu'elle ferait de la peine à son beau-fils. Mais elle avait passé outre. La vie n'eût-elle pas été impossible si elle avait dû tenir compte des susceptibilités de Jean-Noël ? Et aujourd'hui, comme s'il ne lui venait pas à l'esprit que les deux hommes pussent ne pas sympathiser, elle parlait de partir avec monsieur le Doiré. « Je viens d'apprendre, dit-elle, puisque je ne t'ai pas vu depuis, que tu n'es plus en aussi bon terme avec madame Mourier qu'auparavant. Si c'est vrai, c'est dommage. Cette femme avait beaucoup d'affection pour toi, et je crois que tous les conseils qu'elle te donnait étaient excellents. » Certains étaient excellents, comme tu dis, d'autres l'étaient moins. « Qu'est-ce que tu comptes faire à présent ?»« Je vais voir, je ne sais pas encore. » Annie regarda son beau-fils dans les yeux. « Ne crois pas que, parce que tu es libre, tu n'as plus qu'à agir à ta guise. C'est au contraire quand on est seul, quand personne n'est là, pour nous obliger à faire ce qui souvent nous est désagréable, qu'on doit s'imposer une discipline, sans quoi on devient une sorte d'épave. » Si, quelques jours auparavant, Madame Ettlinger avait changé de conversation quand Laure lui avait parlé de Jean-Noël, c'était parce qu'elle avait soupçonné celui-ci d'avoir désiré sa liberté pour une raison inavouable. Ou Madame Mourier n'avait plus d'argent, ou Jean-Noël projetait de faire un beau mariage. Annie eût été certaine de cette dernière intention, qu'elle eût sans doute invité son beau-fils à sortir sur le champ, car s'il était une chose qu'elle abominait, c'était qu'on pût avoir la bassesse de mêler l'amour à l'intérêt. « Je le sais parfaitement, » répondit Jean-Noël. Annie sourit. Elle ne l'avait pas prié de venir pour lui faire de la morale. Elle avait malgré tout de l'affection pour lui. Si elle avait disparu brusquement, ce n'était pas à cause de lui, mais à cause de beaucoup d'autres raisons, de ces raisons secrètes auxquelles elle avait toujours aimé à paraître obéir. C'était pour que son beau-fils ne donnât pas une importance exagérée à sa solitude qu'elle avait repris contact, mais à la veille de son départ seulement, de façon que cette entrevue fût justifiée et que Jean-Noël ne pensât pas que sa belle-mère avait, on ne savait quel remords. Odile n'avait pas quitté les parages de l'hôtel des grands hommes. Elle y était retournée trois fois en vain. Malgré sa défense, Jean-Noël avait certainement rendu visite à Madame Ettlinger. Ce n'était pas pour le lui reprocher qu'elle l'attendait, mais pour l'en féliciter. La tactique de plier pour vaincre n'était-elle pas la meilleure ? Il serait toujours temps plus tard de faire comprendre à Jean-Noël combien le rôle de Madame Ettlinger avait été néfaste. Pour le moment, il y avait assez de difficultés à surmonter sans en créer de nouvelles. Que dirait M. Wurzel, prévenu comme il l'était, s'il apprenait que son futur gendre continuait à voir Madame Ettlinger ? À 11h30, Odile se décida à rentrer. Son père l'attendait avec impatience. « Ah, enfin, dit-il, où étais-tu donc ? J'ai téléphoné partout. »« Je viens de faire quelques courses, » répondit Odile, sans oser dire qu'elle avait passé la matinée à attendre Jean-Noël. M. Wurzel ne répondit pas. Il tira une lettre de sa poche, la tendit à sa fille en disant « Lis cela. Tu m'expliqueras ensuite ce que cela signifie. » Odile prit la lettre et, à la seule vue de l'entête, elle rougit. C'était une lettre de sa banque. « C'est donc toi qui fais les frais de son divorce ?» s'exclama M. Wurzel hors de lui. « Non seulement il n'a pas d'argent, mais il faut encore lui en donner. Je n'ai jamais vu cela de ma vie, jamais. C'est à se demander si tu n'es pas devenue complètement folle. » « Jean-Noël t'a pourtant dit qu'il était marié. » « Il m'a dit qu'il était marié, mais il ne m'a pas dit que c'était moi qui devais payer son divorce. » Une discussion plus que pénible s'éleva alors entre le père et la fille afin de déterminer à qui appartenaient les titres que M. Wurzel avait mis au nom d'Odile. « C'est bien simple, » dit M. Wurzel en se calmant enfin. « Cet argent, je le considère comme perdu. Tu vas écrire immédiatement à Jean-Noël, devant moi, que tu romps avec lui, sinon je te demanderai d'aller le rejoindre. » D'avoir à prendre parti bouleversa Odile. Elle aimait Jean-Noël, mais elle avait trop entendu parler au cours de son existence de la valeur de l'argent, de la difficulté de le gagner, pour ne pas appréhender d'abandonner sa famille pour un homme qui ne possédait rien. « Tu ne peux pas exiger cela, » dit-elle à son père. Elle n'avait plus d'espoir qu'en Jean-Noël. S'il avait été là, peut-être serait-il parvenu à faire comprendre à M. Wurzel que si elle avait agi de cette façon, c'était qu'il aurait été impossible de faire autrement. « Veux-tu que je lui téléphone de venir ?» Cette proposition fit renaître la colère de M. Wurzel. Que sa fille eût osé demander une avance à sa banque était inimaginable. Elle n'avait pu le faire que sous l'influence d'un escroc. Il se crut alors la mission de sauver sa fille. « C'est cela, » dit-il à Odile, qui ne pouvait plus se retenir de pleurer. « Fais-le venir !» Ce fut, sans se douter de ce qui l'attendait, et encore sous le coup de la triste réception que lui avait faite Annie, que Jean-Noël arriva boulevard du Montparnasse. Odile s'était réfugiée dans sa chambre. « Je viens d'apprendre, » dit M. Wurzel, « que vous vous faites donner de l'argent par ma fille. »« Moi ?»« Oui, vous !» précisa M. Wurzel en prenant le ton moqueur d'un juge vis-à-vis d'un inculpé tenant à son honorabilité. Jean-Noël rougit, balbutia quelques mots d'explication. M. Wurzel le fit taire d'un geste. « C'est une manière de faire, » continua-t-il cette fois sans ironie, « que j'aime mieux ne pas qualifier. Enfin, maintenant, c'est fait. Cet argent, comme je l'ai dit à ma fille, je le considère comme perdu. Mais, à partir de cette minute, je vous prierai de ne plus remettre les pieds chez moi, ni de téléphoner, ni d'écrire, ni d'adresser la parole à ma fille, en quelque circonstance que ce soit. » Odile parut à ce moment. « Retire-toi, » lui dit son père. Jean-Noël était pâle. Il avait été pris en défaut par les gens qu'il méprisait le plus. Il perdit son sang-froid. « C'était mon intention, » s'écria-t-il. Sans même jeter un regard sur Odile, il fit un brusque demi-tour et partit à grandes enjambées. « Que s'est-il passé ?» demanda la jeune fille d'une voix suppliante. « Ce qu'on pouvait espérer de mieux. » Quand elle apprit que c'était son père qui avait provoqué Jean-Noël et que ce qu'elle avait entendu dans la bouche de celui-ci n'était qu'une réponse au cri de M. Wurzel, elle porta les mains à ses tempes et se mit à sangloter. « Si tu ne fais pas des excuses à Jean-Noël, je m'en irai !» parvint-elle à dire quelques instants plus tard. M. Wurzel regarda sa fille avec étonnement. Puis il éclata. « Tu t'en iras ? Eh bien, va-t'en tout de suite, tu m'entends ? Tout de suite, tu n'as qu'à aller le rejoindre. » « Non, je n'irai pas le rejoindre, » répondit Odile en détachant chaque syllabe, comme s'il ne lui venait pas à l'esprit qu'on pût l'interrompre. « Ce n'est pas parce que je suis obligée de quitter ma famille que je cesserai de me conduire comme une jeune fille. »